Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, ainsi qu'à l'équipe technique de Radio Courtoisie, au micro Marc Favre des Chalins. Je reçois dans le studio Jean-Claude Amboise, docteur en droit de la langue française, avocat au barreau de Paris, auteur d'études sur le droit linguistique, ainsi que sur le français dans la chanson en France et dans l'espace francophone du monde. Il est également conférencier. Le titre de l'émission cette semaine, c'est les 70 ans du concours de Eurovision de la chanson et le multilinguisme. C'est en 1956 que la première édition a eu lieu. Comme il est d'usage, je rappelle les coordonnées de défense de la langue française, son adresse postale, 222 avenue de Versailles, 75 07 Paris. Son numéro de téléphone 01 42 65 08 87. Son adresse courriel dlf.paris@club-internet.fr. Et enfin son site internet qui vient d'être renouvelé www.langue-française-sancedi.org. Nos auditeurs qui le désirent peuvent demander un exemplaire de la revue trimestrielle de défense de la langue française, revue de 80 pages, afin de connaître un peu mieux les activités et les actions de cette association. Les activités sont de défense de la langue française et des autres associations sont variées. Les adhérents et les sympathisants de ces associations agissent sur le terrain. Nos auditeurs connaissent les interventions auprès de la presse écrite pour la qualité de la langue et pour lutter contre les dérives de l'écriture faussement inclusive et les utilisations abusives de néologismes, souvent en provenance de l'anglais mondialisé, dans le monde du travail, du sport, de la publicité. Ainsi, on entend souvent sur les chaînes de radio, mais évidemment pas sur Radio Courtoisie, avoir par exemple un must-have, ce qui veut dire qu'il faut posséder un objet à la mode. Donc, au lieu de dire avoir un objet de dernier cri ou un objet à la mode. Donc, ce sont des exemples dans lesquels nos auditeurs peuvent également intervenir. Il y a également des actions concernant avec des dictées, par exemple Jean-Pierre Collignon, que nos auditeurs connaissent, organise des dictées, donc il faut aller sur son blog qui est très, très intéressant. Et il y a également les dictées organisées dans toute la France par Rachid Santaki, que nous avons reçu il y a plusieurs mois, et qui est le créateur de la dictée géante, ou des dictées géantes. Ainsi, le mercredi 17 juin, donc mercredi prochain 2026 à Dieppe, à la gare de Dieppe, il y a une dictée géante qui s'appelle la dictée en gare, donc il faut se renseigner sur le site de la mairie de Dieppe. Et le mercredi 1er juillet à Pau, c'est un petit peu plus loin, à 15h, donc il faut également se renseigner sur le site de la ville de Pau. Alors, nouvelle, comment dirais-je, un peu moins agréable, nos associations mènent des actions devant les tribunaux, Maître Amboise est parfaitement au courant, et le plus souvent devant les tribunaux administratifs pour faire respecter la loi Toubon, et en particulier l'article 4 de cette loi, la loi du 4 août 1994, pour lutter et faire en sorte que la diversité linguistique existe bel et bien dans les traductions. Ainsi, lorsque une collectivité publique, souhaite mettre une langue étrangère, en général c'est l'anglais, il est nécessaire qu'elle mette une deuxième langue étrangère. Le but, c'est d'avoir une diversité linguistique et éviter l'éternel anglais-français. Donc c'est important, il y a des actions qui sont en cours, il y a en particulier un tribunal administratif qui a donné raison à un défenseur de langue française pour la réserve ornithologique du Teche, qui a été largement diffusée. Voilà pour les actions, et j'engage nos auditeurs à écrire ou à adresser un courrier électronique défense de la langue française lors de leur voyage, à l'étranger, il constate que le français a diminué ou augmenté ou est présent, et ça nous permet de faire une petite statistique de la présence du français à l'étranger et également dans les sites touristiques français. Alors, avant cet entretien, je vais citer quelques ouvrages. L'ouvrage de Michel Feltin-Palas, que nous avons reçu il y a quelques mois. C'est quoi déjà le mot en français? Les anglicismes et nous. C'est un petit livre de 17, qui coûte 17 euros chez Héliopole. Il est indispensable, ça permet de faire un point sur l'anglicisation de la langue française en France et à l'étranger, évidemment. Et il y a également une publication de l'Observatoire du plurilinguisme, les cahiers de l'OEP. chez l'éditeur La Volva, V-O-L-V-A, qui est un ouvrage collectif dans lequel notre invité a contribué concernant les différentes typologies de linguistique dans les chansons. Alors avant notre entretien, nous allons faire une pause, petite pause musicale et écouter de la grande musique que nos auditeurs et auditrices vont reconnaître. Voilà, donc je pense que tout le monde a reconnu le générique de l'Eurovision. Alors, Jean-Claude Amboise, cette édition 2026 a-t-elle été favorable à la diversité linguistique et aussi à la chanson française? Je crois que cela fait 70 ans, c'était le 70e anniversaire de la création. C'est un bel âge, l'âge de la maturité médiatique. Alors, est-ce que cette édition a montré des qualités particulières?
Alors, avant toute chose, je tiens à remercier Monsieur le directeur d'émission, Monsieur Favre Deschalances, de m'avoir invité. Je salue les auditeurs de Radio Courtoisie ainsi que la technique. Pour cette édition de 2026, on peut dire, dans la suite de l'édition précédente, qu'elle était très dynamique au sens musical, au sens son, lumière. En fait, c'était une sorte de spectacle du début à la fin. Et ce que j'ai remarqué pour Monroe, qui était la représentante française, c'est qu'elle était un peu fade dans ce spectacle musical. Et je pense que ça a contribué à ce qu'elle n'arrive 11e, parce que beaucoup misaient sur elle, un peu comme l'année dernière, Louane. Et les jurys professionnels lui ont accordé la 4e place, ce qui est un très bon résultat. Par contre, le public n'a pas suivi.
Mais c'est un peu le même cas, c'est en 2026, le public n'a pas du tout suivi.
Voilà. Donc, il y a une réflexion à porter sur les raisons pour lesquelles, depuis plusieurs maintenant éditions, le public
ne suit pas. Ce qui veut dire que les organisateurs, disons, qui travaillent pour la chanson française, donc les équipes françaises n'ont pas compris complètement l'idée, les nouvelles idées du spectacle de l'Eurovision.
En fait, il y a deux possibilités. Soit on fait comme les autres, mais avec aucune garantie, parce qu'on ne se démarque pas, ou soit on fait l'inverse, c'est-à-dire, par exemple, on présente une balade émouvante, comme l'avait fait Sobral.
Bravi.
Surtout Sobral,
ah oui.
Le portugais, en 2017, qui, au milieu de la musique dance, a proposé une balade à la guitare, et c'est lui qui a remporté le concours. Mais c'est vrai que là, cette chanson m'a paru fade. En revanche, la première chanson, la chanson bulgare, interprétée par Dara avec le titre Banga Ranga, était très dynamique et a reçu l'approbation à la fois des jurys nationaux de professionnels et du public.
C'était un vrai spectacle audiovisuel, en fait.
Oui, quasiment du début à la fin. Et cette édition est aussi un peu particulière parce que, avec le conflit israélo-palestinien au Proche-Orient, plusieurs États n'ont pas participé, comme l'Espagne, l'Irlande, l'Islande, la Slovénie. Et puis, ceci posait, au-delà de la participation d'Israël, les méthodes de promotion de la candidature d'Israël et de son candidat. Puisque l'année dernière, la candidate avait une grande différence entre les votes des jurys nationaux de professionnels et le vote du public. Elle était arrivée à la 15e place pour les jurys professionnels et à la première place pour le télévote. Et après enquête, on s'est aperçu que Israël, qui compte beaucoup sur l'Eurovision pour son image de marque, avait diligenté des actions de promotion intensives pour inciter la population à voter 20 fois pour le candidat
on
israélien.
On pouvait voter 20 fois à l'époque.
Voilà, parce que les règles le permettent, le public peut voter 20, enfin, pouvait voter 20 fois pour le candidat.
Pour les auditeurs et les auditrices, on vote par SMS, c'est ça?
On vote par texto ou bien également par téléphone, c'est assez libre. Alors, cela étant, 20 fois multiplié par le nombre que les autorités israéliennes peuvent contacter par des actions de promotion, ça gonfle le vote du public, et beaucoup se sont interrogés sur cette différence, à tel point que l'UER, hein, donc l'association des radiodiffuseurs qui organise l'Eurovision, a baissé à 10 le nombre maximum de votes pour, le vote public.
Avec un même téléphone, je peux envoyer 10 fois un texto en disant je veux voter pour tel ou tel.
Oui, alors, soit vous pouvez choisir, vous n'êtes évidemment pas obligé de voter pour un seul candidat, mais si vous voulez voter que pour un candidat, vous pouvez appeler 10 fois. Maintenant, c'est 10 fois, mais à l'époque, 20 fois de suite pour le même candidat. Et pour cette édition, le candidat israélien, donc, ça savait qu'il y avait une difficulté.
Candidat qui chantait en trois langues.
Voilà, trilingue, en français, en anglais et en hébreu. Et l'extrait, parce qu'à chaque fois, pour que les gens puissent se remémorer les chansons, ils passent des extraits. Et l'extrait diffusé est l'extrait en français. Donc, comme si c'était une chanson française, en fait. Et pareil, pour cette édition, Israël a refait la même chose, à tel point que l'UER a lancé un avertissement à Israël et aux candidats israéliens pour lui demander d'arrêter ces actions, je dirais, intempestives de promotion. Qui est des actions de promotion, ça peut se comprendre.
Oui.
Et d'ailleurs, d'autres pays comme la Moldavie, l'Azerbaïdjan le font.
Il y a eu un temps, on disait souvent que les pays nordiques votaient pour la Norvège, votait pour la Suède votait pour la Norvège. Donc c'est pas une innovation, c'est plutôt la systématisation.
C'est la systématisation, et puis là ça touche vraiment beaucoup de pays.
Le plus simple, ça serait qu'un numéro de téléphone, un vote.
C'est mon idée.
Ça serait plus démocratique si tant est que la démocratie est dans la chanson.
Oui, c'est mon idée. Donc, un petit rappel, l'Eurovision, il y a deux systèmes de vote. Il y a un vote des jurys nationaux de professionnels, qui compte pour 50%, et l'autre partie du vote, c'est le vote du public, qui compte également pour 50%. Alors, il n'y a pas que les votes qui influencent les résultats. Il y a aussi, vous les avez d'ailleurs suggérés, les votes géographiques. C'est-à-dire qu'on a vu que des blocs géographiques votaient entre eux. Il y a le bloc des pays du nord de l'Europe, Islande, péninsule scandinave et Danemark. Il y a le bloc de l'ex-Yougoslavie. Et il y a aussi un petit bloc qui est... Alors, ici, c'est un bloc linguistique, mais géographique aussi, c'est la Grèce et Chypre. Voilà, en général, les deux s'échangent, si je puis dire,
les votes.
Donc, il y a cette considération à bien avoir à l'esprit. Donc, vote géographique, et puis vote communautaire. Bon, pour Israël, par exemple, ce n'est pas un vote géographique, c'est un vote communautaire. Donc, que la communauté soutienne le candidat israélien. Et puis, il y a les règles linguistiques, si je peux dire un mot.
Oui,
règles linguistiques, puisqu'elles ont changé depuis 1956, on peut s'en douter. De 1956 à 1965, il y avait l'idée implicite que les pays chantent dans une de leurs langues nationales. Donc, il n'y avait pas de règles, en fait. Hein. Et en 1965, la Suède a rompu la règle implicite en chantant en anglais. Ce qu'a fait l'UER, c'est qu'elle a imposé le plurilinguisme en obligeant les pays à chanter dans leur langue. Et cette pratique a duré jusqu'en 1972. Donc de 66 à 72, le multilinguisme en fait était reconnu.
Donc c'était les langues nationales ou les langues régionales ou les langues officielles.
Alors langue nationale, langue régionale et alors langue du pays.
Les langues du pays. Les langues au pluriel.
Voilà, c'est les langues au pluriel parce que quelquefois on a des pays qui ont des langues officielles mais qui sont peu pratiquées. C'est le cas par exemple en Afrique francophone, il y a des États où on parle beaucoup plus les langues africaines que le français. Donc ici, c'est les langues nationales et régionales. Et c'est comme ça, par exemple, que la France a présenté en 2022 une candidature en breton.
En breton, absolument, une langue régionale reconnue.
Alors, ce qui a d'ailleurs eu pour effet que cette édition n'a comporté aucune chanson en français. Oui. Ça peut poser question quelquefois.
Parce que les autres pays ont chanté à l'époque, je suppose, plutôt en anglais que dans leur langue.
Alors là, ce qui se passe avec le multilinguisme reconnu, c'est que la question ne se pose pas. C'est-à-dire que tous les pays chantent dans une de leurs langues nationales. Évidemment, si elles n'en ont qu'une, c'est soit la langue nationale, soit une langue régionale. Les pays anglophones chantent en anglais. Et puis le multilinguisme est pleinement
reconnu. Donc ça, maintenant, c'est terminé, ça.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que en 1998, l'Allemagne a dit que si la règle demeurait, le multilinguisme, elle quittait l'Eurovision.
Ça n'aurait pas forcément été une mauvaise chose, d'ailleurs, parce que ça aurait pu... Chaque pays peut quitter, revenir, d'après ce que je sais.
Oui, mais elle, c'était définitif.
Ah, c'était définitif.
Ah oui, c'était vraiment...
Ils ont aussi des langues régionales, les Allemands.
Oui, mais l'Allemagne, pour des raisons peut-être historiques, les règles juridiques, notamment dans ce domaine, mais dans d'autres aussi, elle est très réticente.
Et donc là, les Allemands ont imposé, en fait... Alors, ici comme ailleurs, donc.
Disons, sinon, elle aurait joué le jeu de la chaise vide, comme l'a fait le général de Gaulle.
Oui, mais c'est pour une situation moins importante.
Oui, mais symboliquement, c'est ça. Et donc, à partir de 1999, l'UER, l'Union Européenne de Radiodiffusion, l'organisme qui organise le concours, a décidé la suppression des règles linguistiques. Donc, depuis 1999, on vit sous un régime de liberté linguistique dans le domaine des chansons.
Et les conséquences, on va peut-être écouter les conséquences maintenant sur sur la diversité linguistique n'est pas très bonne.
Alors, en règle générale, si on examine toutes les éditions, la tendance, elle est au déclin du multilinguisme. Dès qu'il n'y a plus de règles, en général, c'est la langue la plus puissante qui domine. Et c'est ce qui s'est passé à peu près jusqu'en 2000, jusqu'à la fin des années 2010. Il y a eu un déclin, non, je dirais un recul, parce qu'un recul, c'est temporaire, le déclin est définitif, donc c'est un recul notable, puisqu'on est arrivé à un pourcentage d'anglais très élevé. Et on va aborder l'édition 2021, où là, il y a eu un sursaut.
Oui, vous m'avez indiqué qu'en 2021, il y avait beaucoup de chansons dans des langues autres que l'anglais.
Alors, en fait, il y en a peu, mais celles qui ont subsisté...
Performées pour en mauvais français.
Celles qui ont subsisté, elles ont eu les meilleures places, en fait.
Ah oui, parce que c'était un effet relatif.
C'était une édition... où le pourcentage d'anglais avoisinait les 80%.
Ah oui.
Mais parmi elles, il y avait deux chansons en français, une chanson en italien, une chanson en ukrainien, et ces chansons se sont retrouvées dans les cinq premières.
En bonne position.
Voilà. Donc en fait, il y a eu une sorte de revanche des langues nationales face à cette proportion d'anglais. Et là, effectivement, sur les 5 premières chansons, 4 sont en langue non anglaise. La première est en italien. Les deuxièmes et les troisièmes sont en français. La cinquième est en ukrainien. Et celle qui a occupé la quatrième place est en anglais. C'est la seule qui soit en anglais à la quatrième place.
On va peut-être écouter les extraits de 4 de ces chansons. La chanson en italien et 2 chansons en français et la chanson en ukrainien. Donc c'est la... on va écouter 1 minute de chaque chanson, ça va vous faire 4 minutes de chansons avec une diversité linguistique importante.
Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per quest'ora mi sto allenando e buonasera. Signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori, ma sono fuori di te.
Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi, parlez de moi, à vos amours, à vos amis, parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous, c'est tout. J'ai peur, oui, me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi, avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà.
Et c'est le vent qui frôle sa main sur mon épaule, le vide dans ma tête, pas la moindre cachette. C'est l'aube qui décline derrière un champ de ruines, le moment de grandir, ne pas te retenir. Je vois derrière nous des morceaux de toi, et ce que la douleur a fait de moi.
Я
vous êtes bien sur Radio Courtoisie. Vous venez d'entendre de l'italien, du français et de l'ukrainien. C'est pour montrer la diversité linguistique, je crois, de l'édition 2021, Maître Amboise.
Oui, vous avez tout à fait raison. Diversité linguistique et aussi diversité des genres musicaux.
Absolument.
On a la première chanson en italien, c'est du rock. La deuxième chanson de Barbara Pravi, c'est dans la tradition
de Piaf. Et de, voilà.
La troisième, c'est vraiment la chanson à voix. On voit les vocalises.
C'était la Suisse.
Voilà, c'est la Suisse. Et puis, pour la chanson ukrainienne, il y a un côté un peu folklorique qui vient s'ajouter.
Oui, qui reprend un petit peu les débuts de l'Eurovision. On voyait des chansons folkloriques qu'on voit plus du tout, sauf...
Sauf exceptionnellement. Oui, oui. Donc, diversité dans tous les domaines, je dirais. Donc, intéressant, cette édition 2021, parce qu'elle constitue vraiment un tournant, comme si, au-delà d'un certain pourcentage, les gens... que ce soit les jurys nationaux professionnels que le public, étaient saturés d'anglais.
L'abus d'anglais nuit un petit peu comme, voilà, comme la fumée.
C'est exactement mon opinion. L'édition 2025 va nous être aussi intéressante car elle comporte deux records, cette édition. Pour la première fois, près de la moitié des chansons sont interprétées totalement dans une autre langue que l'anglais. Donc, on a...
On revient à la diversité.
Cet élan, mais là, sans règles.
Oui.
Avec ce régime de liberté linguistique. Et c'est la première fois qu'on a autant de chansons, à l'époque, en tout cas en 2025, qui ne sont pas totalement en anglais, qui figurent. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui nous concerne, plus directement, c'est que la langue française n'a jamais été autant utilisée que durant cette édition 2025.
Donc c'était l'an passé, en fait.
C'était l'an passé. Avec donc, la France éloigne, il y avait la Suisse aussi, qui a chanté en français. Le Luxembourg, avec cette référence à France Gall.
Oui, je me souviens, avec une belle, voilà, de belles images.
Voilà, de l'anniversaire de cette chanson mythique de France Gall. Et puis Israël aussi avait prévu un refrain
en français,
sans compter aussi les Pays-Bas, avec Claude.
Oui, qui était un chanteur, qui parle français d'ailleurs.
Et qui est d'origine de la République démocratique du Congo.
RDC, oui.
Et qui a chanté en français et en anglais. Donc cette édition était vraiment très importante sur le plan des langues. Et pour l'édition de 2026, on a un mouvement qui mûrit. C'est le multilinguisme dans les chansons. C'est-à-dire que cette édition là, qui vient de se produire, on a beaucoup de chansons qui comportent plusieurs langues. Par exemple, la Moldavie chante en 8 langues.
Ah oui.
Donc c'est tout à fait...
un patchwork, si j'ose
voilà,
dire.
Voilà, exactement. Et ça, c'est vraiment une nouveauté. Par exemple, alors, on a la Roumanie aussi, donc chante... en plusieurs langues. La Lituanie chante en 6 langues. Alors, je vais en citer quelques-unes. L'anglais, alors le lituanien, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le français et l'italien. Donc là aussi, on a une très grande diversité. Et puis, on a la chanson israélienne dont on a parlé.
En 3 langues.
3 langues. Français, anglais, hébreu. Et c'est la première fois qu'on a un tel multilinguisme dans un concours de l'Eurovision pour les chansons en tant que telles. Donc là aussi,
donc là, la diversité linguistique existe effectivement.
Alors ce qui se passe depuis 2021, c'est, à mon avis, ça a été vraiment le détonateur avec cette masse de chansons en anglais qui a redonné vie, en quelque sorte, qui a suscité la reconnaissance des langues nationales. Et depuis 2021, on a vraiment un mouvement vers moins d'anglais et aussi maintenant avec différentes langues interprétées dans les chansons.
D'ailleurs, dans le concours, le chanteur ou les chanteuses du Royaume-Uni ne performent pas en général. Bien qu'elle chante effectivement, ou lui chante en anglais, mais leur chanson ne recueille pas beaucoup de votes.
Le Royaume-Uni a obtenu au total un point pour l'édition 2026.
Oui, là, c'est vraiment c'est une cabale contre le Royaume-Uni tout de même, parce que un point, ouais, la chanson n'était pas si catastrophique que, ouais, que
mais
cela.
C'est vrai que certains s'interrogent en estimant que le Royaume-Uni finalement est indifférent au concours Eurovision de la chanson et donc propose une chanson vraiment comme ça pour, ah oui, pour occuper pour être présent. Mais pourtant, le Royaume-Uni a obtenu vraiment de grands succès. Il y avait une chanson, Save Your Kisses For Me,
oui,
qui a été en 1975 un succès absolument incroyable. Mais pour tout dire, depuis 1999, le Royaume-Uni n'a plus remporté le concours.
Voilà, la France aussi, malheureusement.
Alors la France,
puisqu'on est toujours avec Marie-Myriam, si je sais faire erreur.
On est avec Marie-Myriam, mais on a quand même de bons classements. On a eu de bons classements ces dernières années, surtout au début de l'année 2020, après Barbara Pravi. Après, on a eu Slimane,
oui,
avec Mon Amour, qui a été classé quatrième, deuxième du jury.
Il y a eu Loane aussi.
Alors, Loane, elle a été classée septième.
Septième. Donc, je crois qu'elle était quatrième.
Alors, je dois dire que j'ai un peu une crainte pour le français, parce que depuis plusieurs éditions, à chaque fois, les résultats sont en baisse.
Oui, depuis Barbara Pravi.
Deuxième, quatrième, septième, et la onzième.
Jusqu'où ne descendront
voilà,
pas.
Alors, j'espère pas que la situation va changer. En tout cas, cette édition de 2026 aura marqué les esprits pour son multilinguisme, et même la Bulgarie, voilà, qui a gagné l'Eurovision, a proposé un titre en créole jamaïcain.
Ah oui.
Même si la chanson était en anglais.
Oui, c'est vrai, effectivement.
Elle a donc,
oui, je me souviens.
Je rappelle le titre, Banga Ranga.
Voilà,
Banga,
oui, Ranga. Exactement. Voilà. On va peut-être, puisque l'émission en aura encore pas mal de temps, mais tout de même, faire ou me parler de chansons illustrant la diversité linguistique avec des chansons en néerlandais et en norvégien, je crois.
Alors, ces chansons-là ont une particularité. Elles ont toutes remporté le concours avec leur langue.
Ah.
Leur langue peu connue, le néerlandais, le norvégien. Et puis, on ne l'a pas là, mais je pourrais ajouter
En deux styles différents, d'ailleurs, entre... On va les écouter un instant. Le troubadour en néerlandais est un style un petit peu classique,
ouais,
avec guitare et devant un micro.
Oui, oui, oui.
Et alors que le nocturne du groupe Secret, hein, c'est ça?
Oui,
c'est plutôt le style actuel de...
Oui, avec un associé lyrique. Hein.
Oui.
Quand on entend, on sent que la personne a vraiment une voix de chanteuse opéra.
On va entendre les diffusions de la chanson néerlandaise.
Voilà, en entier.
Cette fois-ci en entier, qui sera suivie de la chanson norvégienne, Nocturne.
Avontuur, hoor de meid nachtelijke was uit. Enkel wat modder tot besluit. Maar wie getroost werd door zijn lied, vergeet hem niet. Want hij zat zo boordevol muziek. Hij zong voor groot en klein publiek. Hij maakte blij, melancholiek.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Voilà, donc c'est la diversité linguistique pour nos auditeurs. Je crois que Radio Courtoisie a rempli son quota de diversité linguistique aujourd'hui.
Et de genres musicaux.
Et de genres musicaux. Et je dis bonne journée en flamand à nos auditeurs. Goedendag. Et nous allons continuer notre entretien avec Jean-Claude Amboise, que je rappelle, avocat au barreau de Paris et spécialiste de la langue française. Jean-Claude, je vous donne la parole.
Alors, peut-être une précision sur l'année de la chanson.
Oui, absolument.
1995.
Pour le Norvégien.
Pour le Norvégien, pour la... et 1969. Pour la chanson néerlandaise.
Et de troubadour, c'est tout de même un mot d'origine française.
Et oui, et je pense que vous avez remarqué que dans la chanson, il y a plusieurs mots français. Oui. Musique, mélancolique, des mots comme ça.
Donc ce sont deux chansons qui ont gagné à leur époque.
Elles ont remporté le concours de la chanson.
Donc les Pays-Bas, c'est sans doute la première et la dernière fois qu'ils ont gagné le... Non, peut-être pas. Avec leur langue, c'est sûr.
Avec leur langue, oui, si, ils ont gagné avec une chanson qui s'appelle Dig Dong en 1975, qui a eu beaucoup de succès.
D'accord.
Et là, cette chanson-là, qui a été numéro un, montre avec une langue qui n'a pas la réputation d'être spécialement musicale, qu'on peut remporter le concours. Et vous avez évidemment remarqué les genres très opposés.
Ah oui, très différents, oui.
C'est ça qui est extraordinaire. Deux chansons complètement différentes.
Complètement. Il y a la chanteuse traditionnelle, je crois qu'elle s'appelle Lénicourt.
Alors, c'est Lénicourt, tout à fait. Et qui, d'ailleurs, est très francophone. Elle parle un français parfait. Elle a même enregistré une version en langue française de sa chanson.
Je ne l'ai pas écoutée. Et la chanson, effectivement, quoi, le nocturne du groupe Secret, c'est vraiment un genre musical.
Apaisant.
Apaisant, c'est la musique, comme l'on dit, comme on ne devrait pas dire, mais New Age, un petit peu.
Et elle a choisi d'ailleurs un titre en français.
En français, nocturne.
Nocturne.
Et donc nous allons peut-être, nous avons parlé un petit peu, vraiment, un petit peu avant l'émission, nous avons parlé aussi des chansons qui n'ont pas forcément gagné le concours, mais qui sont devenues des chansons très connues, très diffusées, des standards, comme l'on dit.
Des grands classiques. Donc de l'Eurovision, déjà, hein, puisqu'elles forment un peu la base musicale hein, de l'Eurovision. Donc la première... Elle est de 1958, elle a été classée en troisième position pour l'Italie en italien, et son titre c'est Volare.
Volare, c'est ça?
Voilà, Volare, oui. Interprété par Domenico Modugno.
Et c'est connu Di Pinto Di Blu, quoi, ce petit...
Voilà, alors il commence par Volare, alors souvent on dit le titre Volare, mais on peut prononcer aussi toute la phrase... en italien, et cette chanson a eu la particularité d'avoir un grand succès international, y compris aux États-Unis, ce qui est exceptionnel, en italien, donc énorme succès. Elle a été réinterprétée par Dalida, en français, et puis aussi par le groupe de rumba flamenco français, très populaire dans les années 80, les Gypsy Kings.
Ah, les Gypsy Kings, oui.
Qui l'ont repris avec le titre Volare, essentiellement en espagnol. Parce que c'est un groupe français, mais d'origine gitane, et ils chantent en espagnol. Deuxième, une petite présentation pour l'autre chanson.
Oui, oui.
En première position, on a ici, pour le Luxembourg,
France Gall.
Le titre imparable, Poupée de cire, poupée de son, qui lui aussi a été un énorme succès, qui a dépassé même...
Ça, c'est les années 60, ça.
1965, c'est l'exemple type de la musique pop des années 60. Et cette chanson, comme je commençais à le dire, a eu un succès jusqu'à Singapour.
Oui.
Donc, et puis aussi en Amérique latine.
Donc c'est vrai que c'est un classique, la chanson de variété. Ah ouais.
Chanson de
absolue.
Musique pop. Donc, énorme succès. Et comme on le disait tout à l'heure, Laura Thorn, qui a représenté le Luxembourg l'année dernière... en a fait une référence, puisque sa chanson était une référence à la chanson.
Exactement, avec un spectacle très, très amusant,
oui,
de poupées, de maisons de poupées.
Voilà, c'était, tout à fait, voilà, pour illustrer sa chanson.
Qu'on peut revoir, effectivement. Revoir dans les vidéos facilement.
Avec la poupée monte le son.
Voilà, à c'est ça.
Et puis, dernière chanson qui a eu beaucoup de succès. l'Eurovision.
Un petit peu moins connu pour nos auditeurs.
Moins connu par des auditeurs français, mais beaucoup plus connu dans les pays du nord de l'Europe. C'est RS2, interprété par le groupe Mocedades, qui a eu un succès international tout de même, puisque ce titre a été classé en Nouvelle-Zélande.
D'accord. Eh bien, nous allons écouter ces trois chansons à la suite. Et ça sera pour terminer, ça sera un beau feu d'artifice pour terminer notre émission. Je retrouverai nos auditeurs le 13 juillet pour une émission qui aura plutôt littéraire. Et donc, je souhaite un bon été, un bon début d'été à nos auditeurs et à nos auditrices.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel dipinto di blu, felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché, quando tramonta la luna li porta con sé, ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.
Dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleure, suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon, poupée de cire, poupée de son. Mes disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brillante.
brisée en mille éclats de voix. Autour de moi j'entends rire les poupées de chiffon, celles qui dansent sur mes chansons. Poupées de cire, poupées de son, elles se laissent séduire pour un oui, pour un non. L'amour n'est pas que dans les chansons. Poupées de cire, poupées de son. Sont un miroir dans lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Seule parfois je soupire, je me dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans raison, sans rien connaître des garçons. Je ne suis qu'une poupée de cire, qu'une poupée de son. Sous le soleil de mes cheveux blancs, poupée de cire, poupée de son. Mais un jour je vivrai mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Sans craindre la chaleur des garçons, poupée.
Eres tú, eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa. Eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza. Eres tú, eres tú, como lluvia fresca en mis manos. Fuerte brisa, eres tú, eres tú, así, así, eres tú.
Voilà, voilà trois chansons en italien, en français et en espagnol. Encore un dernier mot, Maître Amboise, avant de nous quitter et de retrouver nos auditeurs le 13 juillet.
Ces chansons montrent très clairement, une fois de plus, qu'on peut chanter dans n'importe quelle langue et rencontrer un succès international, et que ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas une langue que la chanson ne peut pas avoir de succès. Et d'ailleurs, qui comprend les paroles des chansons en anglais, mis à part les anglophones d'origine. Ces chansons, certaines de ces chansons, ont suscité des carrières après d'un certain nombre de chanteurs ou de groupes. Le premier, c'est le groupe ABBA, le groupe suédois anglophone, que j'imagine tout le monde connaît, après le succès de la chanson Waterloo en 1974. Et puis, le deuxième succès, comme accélérateur de carrière, c'est Céline Dion, en 1988, qui a remporté le concours Eurovision pour la Suisse avec « Ne partez pas sans moi ». Et après un album en anglais, elle a publié un album en français qui s'appelle « Deux ». Et cet album de langue française est devenu l'album le plus vendu dans le monde et le plus vendu tout court en France.
Merci Maître Amboise de ces précisions, et je dis à nouveau à nos auditeurs au 13 juillet.
venez d'entendre Français, mon beau souci, dirigé par Marc Favre Deschalans, diffusé en direct sur Radio Courtoisie lundi 15 juin 2026 de 10h à 11h et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs, aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Et je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.